Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est votre Énervé la suite France Inter plus de Star Wars cette semaine, la saga culte de George Lucas dont on attend l'épisode 9 demain en salle. Dès le début, la saga connaît un énorme succès. George Lucas aura vraiment contribué à l'apparition des blockbusters tout en restant indépendant vis-à-vis des studios. Il faut même savoir qu'il a systématiquement repoussé les suggestions qui visaient à rendre les films plus commerciaux en détournant son histoire. Star Wars est rapidement devenu un élément incontournable de la culture populaire avec des répliques cultes, que la force soit avec toi ou le « je suis ton père » de Dark Vador. Alors comment comprendre ce succès ? Décryptage ce soir d'abord avec André Asseo dans son émission « Les étoiles du cinéma ». Le 14 octobre 1983, il reçoit Richard Marquand, le réalisateur du Retour du Jedi, avec qui il évoque le succès du film aux États-Unis, les secrets de cette réussite et enfin sa rencontre et sa collaboration avec George Lucas. Que la force soit avec nous ce soir.
Ce sont les étoiles du cinéma, composées et présentées par André Asseo. Le retour du Jedi est le numéro 3 de la guerre des étoiles. C'est un triptyque qui est toujours sur un sujet original et dont le producteur est de George Lucas. C'est un homme qui a bien réussi dans cette entreprise. Et le retour du Jedi, là, a comme réalisateur Richard Marquand. Et Richard Marquand, c'est là pour vous un film important puisque Le Retour du Jedi est en train de pulvériser tous les records de recettes qui sont enregistrés aux États-Unis.
Là, je me plains pas, oui, c'est vrai. Je suis très content.
Vous attendiez ou pas à un tel record ?
Oh non, pas comme ça. Mais je savais quand même qu'avec cette histoire, on pouvait quand même réussir. Parce que c'est une histoire formidable. Et même sans avoir lu, je savais, quand j'ai vu les deux autres films, je savais bien que quand même, l'histoire doit être bon.
Et alors, cette histoire, parlons-en d'abord. Alors, elle se passe bien sûr dans une galaxie très lointaine.
Oh oui, il faut toujours.
Bien sûr.
Oui, oui. Mais ça donne la réponse à beaucoup de questions auxquelles on s'attendait. Alors c'est pour ça que je savais que la troisième partie d'une triptyque, ça doit être de toute façon intéressant. Ce que j'ai pu faire, c'est d'améliorer, si vous voulez, une histoire qui était déjà formidable.
Ce qui est assez étonnant, c'est que cette troisième partie, Le Retour du Jedi, semble, pour les Américains, puisque en France le film n'est pas encore sorti, on ne sait pas encore comment le public va réagir, mais semble pulvériser les records même de la guerre des étoiles numéro 1.
C'est une histoire très dense. C'est comme si on avait les deux autres films dans un paquet. Il y a tant de choses qui se passent là-dedans. L'histoire est tellement dense. Les personnages, il y en a encore de beaucoup de nouveaux personnages là-dedans, des héros, des méchants, des monstres, des bêtes. Et aussi, ça se déroule d'une vitesse surprenante. Alors, ça fait que c'est un film, comme j'ai dit, c'est comme si les deux autres films étaient emballés en un film.
Vous voulez voir un peu ce qu'on avait ajouté, justement, par rapport aux autres. Il y a... On retrouve tout ce qui est bataille spatiale, tout ce qui est, fusée, grand vaisseau, un truc comme ça. Mais en plus, il y a tout un univers fantastique. Ce film est plus porté vers le fantastique, autant porté vers le fantastique que vers la science-fiction.
Oui, c'est plutôt... Et aussi les émotions sont poussées vers... aussi loin que possible. Les émotions, l'histoire de Luke Skywalker qui cherche son père... ça, pour moi, c'est une histoire immortelle. C'est une histoire qui vient de nos cultures ici en
tragédie,
Europe.
C'est une tragédie totale, être obligé de se battre contre son père.
Enfin, tragédie totale, tragédie
c'est
totale.
C'est cornélien.
Oui, enfin,
tous les pères du monde sont d'accord.
C'est une tragédie, tout de même.
Non, c'était pas une tragédie.
Non, parce que vous-même, d'après ce que j'ai lu, Richard Marquand, vous vous défendez que Le Retour du Jedi soit un film de science-fiction. Vous dites que c'est plutôt une mythologie.
Oui, c'est une mythologie. On peut toujours utiliser la science-fiction pour décorer le film ou on peut l'utiliser pour transporter les gens d'ici jusqu'à là sans sans être, sans démoraliser les spectateurs. C'est-à-dire que si c'était une histoire d'un jeune prince de médiéval, il devait y aller à galop sur un cheval. Mais maintenant, c'est pas nécessaire. Alors, on peut pousser les choses, on peut voyager très vite. Et ça, c'est très utile. Alors, la science-fiction, c'est très utile. Les batailles se passent comme les batailles du Moyen-Âge, seulement ça se passe dans l'espace.
Ça se passe, ça se passe d'autant plus Moyen-Âge que aux rayons laser et aux batailles intersidérales qui se déroulent, il y a, dans Le Retour du Jedi, quelques éléments nouveaux, en particulier des petits oursons qui viennent se battre et qui, je crois, vont ravir pas mal de spectateurs.
Où sont des oursons en plus cannibales, quand même?
Comment cannibales?
Oui, cannibales. Ils veulent bouffer à un certain moment les héros.
Ils mangent, ils aiment quoi? Ils sont carnivores. Pas cannibale.
C'est la même chose.
Oui, comme les Français, ils sont carnivores.
Oui. Je ne savais pas, René Casson, que vous étiez cannibale également.
Ils veulent manger les héros, c'est quand même du cannibalisme.
Alors, ces oursons, ça c'est un gadget tout à fait nouveau dans le film.
Ah oui, c'est un peuple, c'est une race. Ça existe dans le nord de la Californie.
Ils sont là. Les petits oursons?
Ah oui, il faut prendre garde. Si on y va à la nuit, c'est très dangereux.
Vous avez été les voir?
Mais oui, on les voit. Le matin, vers 3h le matin, on peut les voir.
Alors, soyons sérieux, parlez-nous des effets spéciaux de ce film, puisque les effets spéciaux sont quand même, dans Le Retour du Jedi, l'un des éléments les plus importants du film.
On a plus, oui. On a beaucoup plus des plans d'effets spéciaux dans ce film que dans les deux autres. C'est à peu près 200 plans de plus que La Guerre des Étoiles. C'est un film plus cher, d'ailleurs. Mais aussi, c'est très difficile d'expliquer, mais les effets spéciaux servent le film, servent l'histoire. C'est pas une histoire d'effets spéciaux. Si on y va, on a beaucoup, si on aime ça, on peut quand même être amusé par les effets spéciaux. Mais il y a encore une histoire là-dedans qui... Et c'est ça qu'aime le spectateur, c'est pas les effets spéciaux.
Oui, c'est l'histoire, mais est-ce que ce n'est pas trop difficile pour un réalisateur de dominer une machine pareille? Je vois là la brochure de presse, il y a 15 pages de techniciens en tout genre. Comment peut-on dominer toute cette équipe? C'est une armée.
Oui, ils font ce qu'ils doivent faire pour faire marcher l'histoire.
Qui font ce qu'ils doivent faire?
Ces techniciens.
Ces techniciens, mais c'est vous le maître d'œuvre de tout cela dans ce film.
Oui, parce qu'on donne toujours les esquisses, on donne toujours les plans de travail, on explique toujours, on voit au rush chaque matin, chaque soir. Et c'est eux qui travaillent, mais c'est quand même, ils travaillent sur un plan très très bien défini.
Quelle est la clientèle qui va voir Le Retour du Jedi aux États-Unis? Clientèle très jeune?
Oui, ça, de 4 ans, 5 ans jusqu'à je sais pas où, 70 ans.
Alors dites-moi, j'aimerais qu'on parle de deux personnages. Le premier, c'est vous, Richard Marquand. Le second, c'est George Lucas. Mm-hmm. J'avoue que vous n'êtes pas un metteur en scène extrêmement connu du public français, bien que L'Arme à l'œil est un film qui a fait une bonne carrière en France. Comment êtes-vous arrivé à décrocher un contrat aussi extraordinaire que la mise en scène d'un film aussi énorme que cela?
Ça a commencé parce que, d'abord, j'aimais beaucoup, beaucoup La Guerre des Étoiles.
Vous n'étiez pas le seul.
Non, pas du tout. Et j'étais pas le seul sur ce liste qu'a préparé Georges quand il préparait son liste de metteurs en scène. Je sais pas les autres noms, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. Finalement, on s'est rencontrés. Il a vu mon dernier film qui s'appelait L'Arme à l'œil,
oui.
qui n'est pas réussi beaucoup en France. Je sais pas pourquoi. J'étais, moi, très fier de ce film. Je crois que c'est un très bon film. Très bien joué par Donald Sutherland et une jeune comédienne qui s'appelle Kate Nelligan, qui n'est pas très connue ici non plus. C'est pas nécessaire d'être célèbre pour faire de bonnes choses. Heureusement. Alors, finalement, George a vu ce film. Il a beaucoup aimé. Il a voulu me voir. On s'est rencontrés pour la première fois en Angleterre, où il était en train d'enregistrer la musique pour Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Et on s'est bien aimé. J'ai passé, je sais pas, 2, 3 ou 4 heures avec lui à discuter un tas de choses sur le cinéma, sur nos films, sur nos problèmes, sur la possibilité de travailler ensemble sur un grand film comme ça. Et puis finalement, il m'a expliqué, alors voilà, j'ai 50 noms sur ce liste, je veux voir tout ce que tu as fait dans la vie, il faut qu'on se rencontre encore une fois dans l'avenir, j'ai 6 mois à me décider, je vais prendre mon temps parce que vraiment c'est un œuvre immense. Parce que quand finalement je choisis mon metteur en scène, alors c'est lui le metteur en scène. Il n'y aura aucun doute.
Alors Richard Macan, parlez-moi un tout petit peu maintenant de George Lucas, parce que cette aventure de George Lucas est une chose tout à fait exceptionnelle. Cette troisième aventure de la Guerre des Étoiles qui pulvérise une fois encore les records de recettes aux États-Unis, puis également les Aventuriers de l'Arche Perdue, puis le cofinancement de Kagemusha, quand cet homme est dans tous les grands coups du cinéma, non pas seulement le sien, mais celui des autres aussi.
C'est vrai, oui, c'est un homme du cinéma, c'est un homme qui aime le cinéma, il sait exactement ce qui se passe dans le cinéma, il vit le cinéma, c'est vrai, c'est un homme... plutôt secret, plutôt il a ses peu d'amis qui sont des amis vraiment à lui, qui se téléphonent chaque week-end et qui parlent cinéma. Il existe pour ça et pour sa petite famille.
Un homme très jeune.
Il est jeune d'esprit, il est aussi jeune d'année, il a 35 ans, 37 ans, quelque chose comme ça.
Et il ne surveille pas tout, il n'est pas trop dictateur par rapport à ses metteurs en scène sur le...
Non, justement, ce qui m'a surpris d'ailleurs, parce que je ne m'y attendais pas, c'est qu'après qu'il m'a choisi comme metteur en scène, il a dit, alors maintenant, il faut vraiment qu'on choisisse un scénariste. Parce que nous allons tous les deux travailler avec ce scénariste. Et moi, j'ai dit, je voulais très bien, si c'est possible, que Larry Kasdan travaille avec nous. Il a dit, mais moi, je suis tout à fait d'accord, allons-y. Voyons s'il veut le faire. Et puis après, quand Larry est venu nous joindre là-bas, à San Francisco, nous nous sommes enfermés dans son bureau à George pendant 2 semaines. Et on a travaillé sur les esquisses qu'a fait George pendant 2 semaines. Et c'était comme vraiment créer quelque chose. Tout le monde pouvait être très honnête et très généreux. Et les idées coulaient comme ça, comme de l'eau. C'était formidable. Et finalement, on a réussi à avoir un scénario dont nous étions tous d'accord. Et j'ai pu dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On était d'accord sur tout, finalement.
Et vous faites partie maintenant des rares amis et intimes de George Lucas ?
Je crois, oui. Je me sens très intime avec lui. Je viens de lui parler à la téléphone et... Je le connais. Il me connaît.
Eh bien, en plus, il doit être satisfait des résultats.
Ah, ça,
puisqu'il
oui.
est producteur.
Il se plaigne pas.
Alors, le retour du Jedi.
C'est fini, la Guerre des Étoiles, maintenant, à Plateréus, ça se termine. Votre film donne toutes les solutions. Les méchants ne sont plus là.
Oui, maintenant, il y aura encore deux triptyques. C'est-à-dire le premier triptyque et la dernière triptyque.
Ça vous pensez que c'était fini, René?
Mais tant mieux, je suis ravi.
Ouais. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream. Never thought you would leave. I never thought I'd have to start again.
yesterday's sun. Lost in the talking girls. Oh, I'm so lost in the talking girls. I got on the phone and hung on the phone. I ask her where the hell I am.
Patrick Watson, Dream for Dreaming, vous êtes bien dans la réalité, vous écoutez le Énervé, la suite France Inter plus 2, Star Wars, et tout de suite on retrouve Philippe Collin le 12 avril 2014. Il reçoit dans son émission Si l'Amérique m'était comptée, Patrick Giraud, le spécialiste de la saga et le spécialiste de George Lucas.
Maintenant nous allons parler de la grosse cavalerie américaine, Star Wars. Star Wars de George Lucas. Alors le film va sortir, nous en parlerons plus longuement quand il va sortir en France dans quelques semaines. Je peux vous dire que les deux vedettes de ce film sont deux robots. Une espèce d'humanoïde doré extraordinaire et un autre qui est une borne à incendie et qui parle avec les intonations d'un lord anglais. Star Wars, vraiment une fresque tout à fait extraordinaire de bande dessinée, de science-fiction réalisée par un homme de 30 ans qui avait déjà, souvenez-vous, réalisé American Graffiti. George Lucas, qui était assistant longtemps de Francis Ford Coppola, c'est la bande de San Francisco.
Patrice Giraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes là aujourd'hui pour causer de Star Wars, l'épopée Star Wars. Et dans un article qui date du 30 mai 77 de Newsweek, au moment de la sortie du premier épisode, La Guerre des Étoiles, il y a un journaliste américain qui écrit à propos de ce film. Il s'appelle David Hansen, c'est un journaliste. Et il écrit, voilà, ce film, c'est l'innocence sophistiquée d'un rêve adolescent. Je trouve que ça résume très très bien ce que c'est que le premier épisode en tous les cas. Et pour commencer, donc, j'aimerais, Patrice Giraud, qu'on évoque ce rêve adolescent. L'adolescent en question, c'est George Lucas. Alors, à quoi ça ressemble l'enfance et l'adolescence de George Lucas en Californie dans l'après-guerre, dans la seconde après-guerre?
Bon, alors, avant de vous parler de George Lucas, effectivement, vous avez bien résumé. Pour moi, souvent, je dis que Star Wars, si je dois le résumer en un mot, c'est la jeunesse, quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça, peut-être, que les films qu'il a fait après n'étaient plus les mêmes, parce qu'il avait plus de 50 ans alors qu'il avait tout juste 30 ans dans les premiers. Et c'est vrai que Star Wars, bah voilà, c'est l'histoire de ce jeune adolescent qui va avoir un parcours qui va lui permettre de devenir un héros. Et oui, et que c'est un hymne à la jeunesse parce que c'était innovant technologiquement. Ça faisait un coup de balai sur tout Hollywood qui était devenu complètement vieillot. Et puis, par son histoire, la jeunesse, ouais. Et donc, George, il voulait à la base être pilote de voiture. Voilà, c'était son grand dada. La vitesse, c'était vraiment une obsession. Et puis un jour, il a eu un grave accident, très jeune, avec sa petite auto Bianchi. Et il est passé à deux doigts de la mort. Et dans son lit d'hôpital, là, il a eu une sorte de flash, quoi. Et il a dit, bon, bah, t'es en vie, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de ta vie, quoi. Et donc, là, il a décidé de s'inscrire en école de cinéma, même de photographie, il voulait faire à la base. Et puis, il y avait de la place à USC, donc University of South California. Et donc, il allait faire cette école, et là, ça a été une révélation, quoi. Il a commencé à faire du diaporama à l'époque, avec un enchaînement de musique. Et tout de suite, il a été repéré par les profs, parce que le gars avait une vision incroyable, surtout dans le montage et dans les images et le son. C'est-à-dire, tous ses films étaient atypiques. Il avait à chaque fois gagné un prix, quoi. Et même aujourd'hui, quand on regarde les films, il a finalement inventé le clip 15 ans avant l'arrivée d'MTV. Et donc, il a décidé de faire du cinéma. Il a rencontré un monsieur qui s'appelle Francis Ford Coppola, grâce à une bourse. Il a fait son making-of.
D'un film que tournait Coppola.
Voilà, Finest Rainbow.
Exactement.
Et Coppola a vu que le jeune qui était là avec sa bourse universitaire pour faire un petit documentaire, et vous voyez qu'il n'était pas idiot, le bonhomme. Et ils ont parlé, ils ont sympathisé. Puis il a dit à George Lucas, écoute, reviens me voir tous les jours avec une bonne idée. Et tous les jours, George Lucas revenait avec une bonne idée de réalisation. Voilà. Et c'est comme ça que leur amitié a commencé. Et après, il l'a pris sous sa coupe, lui a produit son premier film, THX 138. Aïe, aïe, aïe. Bon.
Un film expérimental.
Expérimental, que personnellement j'adore quand on aime la SF, hein, parce que c'est très épuré esthétiquement.
Très esthétique, voilà.
Aujourd'hui on le regarde, ça peut marcher, mais à l'époque c'était pas possible. Et donc là, Coppola dit, bon, pour ton prochain film, écris, faut que tu... La base du cinéma, c'est le scénario, quoi. Donc écris tes personnages. Et donc, et c'est là où il a sorti American Graffiti, voilà, qui est finalement une antithèse à THX 138. Et ils ont sorti le film, et bien sûr, ça a été le succès. Donc à partir de là, la carrière est partie. Et donc à ce moment-là, Lucas avait deux projets. C'était soit Indiana Jones, soit Star Wars. C'était deux trucs qu'il voulait faire. Star Wars, ça vient de son amour pour les séries Flash Gordon. Et en fait, il a essayé d'avoir les droits avec son producteur, et il n'a pas réussi à les avoir, parce qu'à l'époque, c'est Alain René qui voulait faire le film.
Eh oui, incroyable.
Et donc, il a écrit sa propre épopée, son propre univers, donc son Flash Gordon, où il a mélangé Dune, enfin tout ce qu'il avait en lui, qu'il avait nourri, la BD, les romans
de culture pop, hein, aussi.
Culture pop, et puis Seigneur des Anneaux, un peu de Picsou, et un peu, voilà.
Lorsque j'ai fait sa connaissance, ton père était déjà un grand pilote. Mais ce qui m'a fasciné, c'était de voir comme la force était avec lui. Alors j'ai pris sur moi de commencer sa formation de Jedi. Je pensais pouvoir l'instruire aussi bien que l'aurait fait Yoda. Je me trompais.
Il y a encore du bon en lui.
C'est plus une machine qu'un homme maintenant. Il est malhonnête et mauvais.
Je n'y arriverai pas, Ben.
Tu ne peux échapper à ton destin. Tu dois affronter Dark Vador à nouveau.
Je ne pourrai pas tuer mon père.
Il y a un personnage très important que j'aimerais qu'on évoque là tout de suite par rapport à la création de cet univers, c'est Joseph Campbell. Qui est cet homme qui intervient, j'ai envie de dire, dans l'existence de George Lucas?
Lucas avait quand même fait des études d'anthropologie avant de faire USC. Et donc, à un moment, pour écrire ce qui s'appelait à l'époque The Star Wars, il s'est basé sur un livre qui s'appelle L'homme aux mille visages de Joseph Campbell, qui est un universitaire américain qui a littéralement décortiqué et qui a fait une sorte de glossaire, une sorte de dictionnaire de comment on écrit un mythe. Et George, il s'est basé là-dessus pour dire, bon, je veux vraiment que mon western spatial, ça va être des chevaliers, il faut que je fasse un conte mythologique moderne pour les enfants. Parce que la cible, c'était, faut pas oublier, les enfants. Voilà, il voulait pas faire un film pour les adultes. Donc voilà, il a pris les préceptes de Joseph Campbell, et il a écrit son Star Wars, donc qui est basé sur le voyage du héros. Et donc ça passe par il faut quitter sa famille, il faut affronter son père, il faut même tuer son père pour devenir plus fort que lui et devenir un homme encore plus puissant, voilà.
Et puis donc, le retour du héros avec le retour du Jedi, évidemment.
Exactement, voilà.
Alors on dit par exemple que Luke Skywalker, quand on prend juste le prénom et l'initiale de son nom, ça fait Lucas, et qu'on peut penser qu'effectivement ce gamin, hein, qui cherche à grandir, c'est un peu George Lucas, et que Han Solo, hein, le mercenaire joué par Harrison Ford, qui est un mec assez rusé, assez roublard, qui est endetté aussi, un peu comme Coppola. On dit que voilà, dans l'écriture de George Lucas, je souris, hein,
Patrick. Je l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement, il y a de ça.
Il y a quelque chose, non? Est-ce que c'est pas Skywalker? Est-ce que c'est pas George Lucas et Harrison Ford, Coppola, dès le départ?
Bon, tant que vous dites pas que Coppola, que Jabba est gros comme Coppola, ça va. Nous n'aurons pas de problème.
Non.
Mais oui, et puis bon, surtout, bon, là oui, c'est vrai, le fait qu'il s'appelle Lucas, tout le monde a vu le petit clin d'œil, mais peut-être que la plus grande trame, c'est effectivement que Luke Skywalker, ce petit fermier jeune et seul, au fin fond de la galaxie, qui est un peu Lucas au fond de Modesto.
Qui est très doué en conduite de
qui est très bon en conduite, comme Lucas qui était très très bon sur ses voitures, et il va affronter l'Empire. Et l'Empire pour Lucas, pour faire des cinémas, c'est Hollywood. Et donc, personne ne voulait de Star Wars. Personne ne voulait Star Wars, alors que American Graffiti a été un énorme carton. Le seul qu'on a voulu, et on peut lui dire merci, et Dieu sait qu'il a produit plein de bons films après, c'est Alan Ladd Jr., hein, qui était à la tête de Fox à l'époque, qui a dit à George, bon écoute, ton scénario, c'est vrai qu'à lire le scénario de Star Wars, surtout la fin, le combat spatial, c'est vraiment indigeste à lire sous forme de scénario, hein, fallait voir les images. Il dit, je comprends rien ton film, mais je mise sur l'homme qui a fait Man Graffiti, donc on va produire ton film, voilà. Et on peut dire merci à Alan, parce que, Alan Ladd, puisque personne n'en voulait. Alan Ladd, après, il a produit des trucs comme L'étoffe des héros, Blade Runner, même Police Academy, en fait, c'est devenu vraiment, il a monté son propre studio qui a fait vraiment plein de bons films après. Et Star Wars, pourquoi c'était un raz-de-marée? Parce que, bon, au-delà du conte mythologique dans lequel tout le monde peut se retrouver, et puis c'est vrai, c'est des Jedi, tout, hein, c'est des chevaliers, donc les gosses adorent ça, mais c'était la prouesse technique, la prouesse visuelle, c'était révolutionnaire techniquement, au niveau du son, au niveau de l'image. Ce côté univers crade donne énormément de réalité au film, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire, quelque part, moi, à 10 ans... j'ai eu l'impression de voir un documentaire où George Lucas est parti tourner sur Tatooine. Mmh. Parce qu'à l'époque, je regardais, quand je rentrais chez moi, j'avais L'île aux enfants et C'est tourné le canard. Donc je ne vous explique pas le choc quand on allait au cinéma voir Star Wars. Il faut se remettre dans le contexte.
Hein. Un des traits de génie de Lucas, c'est d'avoir réussi justement à mélanger le côté mythologique, récits ancestraux. Voilà, c'est l'Iliade et l'Odyssée, en fait, complètement Star Wars. Donc il a récupéré ces codes-là. Il a aussi récupéré les codes du western. Parce que un western, c'est quoi? C'est la conquête d'un territoire, c'est l'instauration de la loi, c'est la construction d'une nation. C'est ça.
Il y a le saloon.
Voilà, mais Star Wars, c'est ça.
Donc, ah, c'est ça.
Un film pour enfants, certes, mais avec des codes que les adultes adorent déjà dans les années 70.
Oui, mais le problème, je pense, c'est que dans les années 70, il y avait un problème, c'est que la science-fiction n'était pas instaurée comme aujourd'hui.
Oui, comme un genre noble, en
voilà.
Tout cas.
C'est-à-dire que, heureusement, il y avait eu, 10 ans avant, je dirais, 2001 au Odyssée de l'espace de Kubrick, qui a donné des lettres de noblesse à la science-fiction. Mais je pense qu'en 77, la science-fiction était un genre complètement dénigré en littérature et au cinoche. Aujourd'hui, maintenant, quand je vais dans les salles de cinéma, on va voir Captain America ou Thor. J'étais à l'avant-première de Thor 2. Je vous promets, la moitié de la salle du Grand Rex, c'était des filles, des ados. Mais à mon époque...
ça vous a surpris.
Non, mais quand on allait voir Superman ou Star Wars, il y avait des garçons.
Ah ouais.
Aujourd'hui, c'est devenu... bah, c'est rentré dans la culture populaire et c'est devenu un genre comme un autre. Et, alors qu'à l'époque, c'était un peu des sous-genres quand même.
Bien sûr.
Mais Star Wars a permis de changer ça. Voilà. Ça a été sûrement un des premiers maillons de la pop culture pour s'installer dans le monde et dire, bon, bah voilà, vous voyez, la pop culture, c'est peut-être gamin, c'est peut-être de la BD sur grand écran, mais ça peut être fun et ça peut être un bon divertissement.
Et voici le Muppet Show avec nos invités du jour, les vedettes de la guerre des étoiles.
Monsieur Kermit, permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être présenté à un batracien aussi distingué qui a apporté tant de joie à l'univers tout entier.
Oh, vous me faites rosir. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. À propos, je peux savoir ce que vous venez faire ici?
Nous recherchons Chewbacca.
Ah, il a encore disparu?
Oui. R2-D2 a raison. En fait, il a été enlevé.
Quoi? Enlevé? Mais d'abord, pourquoi vous le recherchez par ici?
Il nous a envoyé ce pneumatico-spatial.
Ah. À mes braves amis, le Bolux, Cispéo et R2-D2. Venez à mon secours, je suis retenu prisonnier par une bande de farfelus bizarroïdes.
Nous avons tout de suite pensé à vous.
Oui, non, mais c'est normal.
Et puis la pop culture, Lucas a très bien su la distiller dans sa trilogie, parce que prenons un exemple très concret, Dark Vador. Hein, voilà, on voit tous le costume de Dark Vador, notamment le casque de Dark Vador. C'est pas n'importe quoi, c'est pas. Il y a des référents derrière ce casque de l'inconscient collectif, des images qu'on connaissait, un samouraï Dark Vador.
De toute façon, c'est ce que vous venez de dire, c'est que finalement derrière Star Wars, il y a beaucoup de travail à tous les niveaux, au niveau du design, au niveau de l'écriture. Et le problème, c'est qu'à Hollywood, à chaque fois qu'ils ont voulu faire un ersatz de Star Wars, ils l'ont fait sans argent, avec des gens qui n'avaient pas la réflexion, et c'est devenu vraiment des mauvais films, quoi, et qui n'ont pas tenu dans le temps, quoi, qui sont kitsch, quoi. Star Wars, voilà, c'est que finalement, et l'expo est un peu là pour ça aussi, c'est pour montrer que c'est une ode au travail de centaines d'artistes qui étaient littéralement au top à l'époque. Voilà. Lucas a eu la chance de réunir les 7 mercenaires de la technologie, que ce soit le gars des effets spéciaux qui a créé la caméra pilotée par ordinateur, que le maquilleur Stewart Freeborn, que John Mollo au niveau des costumes, que Ralph McQuarrie pour le design général de Star Wars, enfin, tous les mecs, Joe Johnson pour les storyboards, enfin...
John Williams pour la musique.
John Williams pour la musique, Ben Burtt pour le son, on a créé spécialement une catégorie d'Oscar pour son travail sur Star Wars, parce qu'on n'avait jamais vu ça, tout le monde n'avait jamais entendu ça auparavant. Voilà, il a eu la Dream Team, quoi. Et voilà, l'expo, ça montre le travail de tous ces gens-là. Et effectivement, le cas de Dark Vador, Lucas, qui était à San Francisco, et à San Francisco, ils étaient beaucoup emprunts de la culture asiatique, notamment japonaise, que Lucas adore. Lucas adore Kurosawa, et Star Wars, il s'en cache pas, et quelque part aussi calqué sur l'histoire d'une princesse dans un château qu'on doit libérer, donc c'est la princesse Leia dans l'Étoile Noire, et l'histoire est vue au travers de deux paysans. Et dans Star Wars, on voit l'histoire au travers des deux droïdes.
Oui, voilà. Et deux robots.
Et donc, pour en revenir au design, Lucas avait donné pour ordre à Ralph McQuarrie, qui était le designer principal de Star Wars, qui a fait un travail monumental, et John Mollo, responsable du design des costumes. Par exemple, pour les Jedi, il fallait que ça soit un croisement entre des moines et des samouraïs. Dark Vador, oui, fallait qu'il soit le samouraï noir, quoi. Donc, il a dessiné, et on peut voir à l'expo les premiers croquis qui sont tout petits, hein. On a l'impression que ça a été fait sur un coin de table, où effectivement Dark Vador a une coupelle énorme sur sa tête. On dirait vraiment un samouraï du futur. Et pour l'anecdote, c'est que Lucas, quand il a écrit le scénario, il n'y a aucune description de Dark Vador. Il y a juste marqué Dark Vador, Darth Vader en anglais. Et McQuarrie, le designer, dans une scène, était écrit que Dark Vador passe d'un vaisseau à l'autre dans l'espace. Et c'est pour ça que McQuarrie a dit, et pour qu'il aille dans l'espace et qu'il puisse respirer, il faut que Vador, il a un casque. Donc en fait, beaucoup de choses aussi dans Star Wars n'est pas forcément de la création de Lucas, mais de l'apport de tous ces gens qui ont été géniaux.
Et c'est là que c'est important d'insister, parce que l'histoire du cinéma, elle avance comme ça à coup d'innovation, c'est-à-dire soit on révolutionne la manière de raconter une histoire, soit on révolutionne la manière de la filmer, de la tourner. Kubrick, c'est aussi un innovateur. Donc Lucas, c'est un acteur primordial dans l'histoire du cinéma aussi pour ça. C'est pas que l'épopée scénaristique de Star Wars, c'est la manière dont il a révolutionné la manière de filmer. Et ça, on l'oublie un peu aujourd'hui. Il y a tellement d'effets spéciaux, tellement de choses créées qu'on a tendance à le sous-estimer. Mais à l'époque, c'est un génie en la matière.
Ah bah à l'époque, c'était lui et Spielberg, c'était les Wonder Boys d'Hollywood. Mais Lucas, c'est plus qu'un réalisateur, c'est un visionnaire. C'est un Walt Disney des temps modernes. Parce qu'il a fait effectivement... il a créé Star Wars, mais après... avec tout l'argent qu'il a gagné, il a investi, je crois, 3 millions de dollars en recherche et développement par an. À l'époque, qui dépensait 3 millions de dollars en recherche et développement pour faire quoi ? Pour créer l'image numérique, c'est-à-dire avoir un appareil scan qui permette de mettre l'image de l'ordinateur sur pellicule et inversement, avoir la pellicule sur ordinateur. Voilà. Et ça a été des années de recherche. Le montage virtuel aujourd'hui à vide, ça vient de chez Lucas.
Exactement.
Parce que Lucas est un monteur. Le son THX, notamment tous les sons qu'on a maintenant dans la salle de cinéma, c'est grâce à l'innovation de Lucas. Les effets spéciaux, bien sûr. Et puis sa grande trace dans l'histoire du cinéma sera l'image numérique, puisqu'il a développé les premières caméras en numérique. À l'époque, tout le monde rigolait en 97. Et puis effectivement, il a fait des premiers tests sur épisode 1. Et puis l'épisode 2 a été le premier long métrage de cette ampleur, a été tourné en numérique. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, comme à chaque fois qu'a fait George, qu'il l'a toujours fait qu'intelligence, par exemple Les Aventuriers de l'Âge Perdu, qui est quand même l'aboutissement du film d'aventure, après Hollywood s'en empare et fait des choses horribles. C'est-à-dire qu'après, il dénature tout ça sans substance. Et finalement, le numérique aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est que c'est devenu too much. Moi, je trouve que les films sont devenus vraiment très durs à regarder visuellement parce qu'il y a trop de numérique. Et j'espère qu'avec les nouveaux Star Wars, justement, ils vont se faire un point d'honneur, finalement, peut-être à instaurer un peu ce qu'avait fait Ridley Scott avec Prometheus, un nouveau type de production, parce que je pense que là, on arrive au bout d'un système.
Alors aujourd'hui, voilà, les studios Disney ont racheté un peu la marque Star Wars, on va dire. Arrive donc une troisième trilogie, c'est entouré de secrets, c'est le plus grand secret absolu, ouais. C'est impressionnant. Rien ne filtre.
Mais il faut,
c'est normal, c'est le charme aussi d'une telle aventure. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette troisième trilogie, Patrick?
Moi, je vous dis, la seule chose que j'entends, une fois de plus, qu'il y a beaucoup de gens qui disent Disney, quoi Disney, qu'est-ce qu'il y a Disney, Fox avant, Paramount, de toute façon, ce ne sera plus de Microsoft ou des Chinois qui rachètent, quoi qu'il arrive.
C'est un studio.
Voilà. Et puis, quelque part, Lucas devait plus faire de Star Wars. Et finalement, on peut dire merci à Bob Iger, parce qu'on va voir des nouveaux Star Wars. Et moi, en tant que fan, j'avoue que je suis plutôt content.
Mais est-ce qu'il va être intégré au développement des trois autres?
Alors, George, d'après ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, il a écrit une trame. Ils ont pris cette trame. Après, ce qu'ils en ont fait, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont tout jeté ou peut-être qu'ils ont tout gardé. Et puis, Lucas, de toute façon, a laissé sa porte ouverte. Il a dit, venez me consulter, que vous avez un problème, il n'y a aucun problème. Voilà. Il n'est pas impliqué, mais il est là. S'ils ont besoin d'une épaule, il a dit qu'il serait là jusqu'au bout. Voilà.
Et on entend aussi dire que George Lucas va revenir peut-être à des films plus expérimentaux.
J'y crois pas trop.
Vous n'y croyez pas trop?
J'y crois pas trop parce que ça fait 20 ans qu'il le dit.
Ah, donc ça ne marchera pas.
Ça fait 20 ans qu'il le dit. S'il le fait, il le fera d'une manière où on ne le verra pas. C'est-à-dire qu'il le fera pour lui. Parce que je crois que ça a été le piège de Star Wars, c'est qu'après, quoi qu'il fasse, il a été critiqué. bon, déjà critiqué sur ses propres Star Wars, mais dès qu'il a fait, il a produit le film d'un copain qui était Howard le Canard, qui n'était pas son projet. Il finançait le film d'un copain qui lui avait donné un coup de main avant.
C'était quoi ce film ?
Howard le Canard.
Howard le Canard.
Voilà, voilà, c'était une adaptation d'un comics de chez Marvel d'ailleurs.
Je suis passé à côté.
Il faut peut-être mieux. Mais bon, le problème, c'est que les gens n'attendent que Star Wars de lui, quoi. Donc je crois qu'il a compris que de toute façon c'était foutu, et c'est pour ça je crois qu'à un moment il a jeté un peu l'épaule en disant bon bah moi en tant que cinéaste de toute façon je suis mort parce que Star Wars quelque part m'a tué.
Oui, donc il est prisonnier de Star Wars.
Il est prisonnier. Donc le problème c'est que tout le monde, c'est pour ça qu'il a cédé, et finalement qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il fait surtout il fait son musée, il fait de l'architecture, il construit des bâtiments. Voilà, c'est ce que ça, c'est ses autres dada, c'est l'architecture depuis des, je dirais pas plus de 20 ans. Il fabrique ses ranches, il a un processus créatif et puis de réalisation de l'œuvre au final qui lui plaît beaucoup. Et voilà, bah aujourd'hui, il fait plein de buildings dans le monde et personne n'est au courant. Ouais. Et voilà, et là, il est tranquille.
Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît-il réel. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force.
Le sombre monarque débarque et éteint le son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi, où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas fond du pays en action, l'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule d'un rien, il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur, et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force.
Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce, ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ces nuées de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les empoiles. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes, renverse les credos qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête au perronné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle rock sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
L'Empire du côté obscur, signé IAM, qui sonne la fin de ce France Inter+. Demain, Star Wars sera à l'épreuve du réel. Alors, je vous souhaite le bonsoir.